De 18h30, c'est le président délégué du MEDEF. Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Et merci également de nous consacrer du temps. Je salue également Christophe Noël qui est avocat spécialiste en droit du travail. Avec vous, ce que j'aimerais, c'est regarder les questions qui vous remontent le plus du terrain. Je vais d'abord poser cette question à Patrick Martin. Vous représentez donc les entreprises, cette organisation du travail. Que vous disent les chefs d'entreprise aujourd'hui ?
D'abord un rappel, le MEDEF c'est 173 000 entreprises qui ont plus de 1,5 million de salariés, donc beaucoup de PME à dans nos rangs. Beaucoup d'inquiétudes de la part des chefs d'entreprise. Au premier chef, c'est Monsieur Martinez, j'espère me croira, inquiétude quant à la santé de leurs salariés. Hein, très sincèrement, on ne voit pas quel chef d'entreprise aurait intérêt à exposer la santé de ses salariés, d'abord sur un plan humain, mais également sur un plan économique, puisque si un salarié est atteint, d'ailleurs ça ne sera pas forcément dans le cadre de son travail, il y a nécessairement des mesures de quatorzaine pour ses collègues. Hein, donc la priorité des chefs d'entreprise à double titre, c'est d'assurer la sécurité des salariés. Ensuite, véritable angoisse, au regard de l'effondrement des chiffres d'affaires dans bon nombre de secteurs, hein, prenons le cas du bâtiment, 90%, et je ne parle pas des voyagistes, je ne parle pas des organisateurs de spectacles, je ne parle pas des commerces non alimentaires. Mmh. Et donc la fin de mois va être extrêmement difficile. C'est l'occasion pour moi de dire que le dispositif d'accompagnement financier mis en place par le gouvernement paraît adapté, encore faut-il qu'il se déploie très vite parce qu'il y a des échéances imminentes.
Christophe Noël, vous qui êtes avocat spécialiste en droit du travail, quelles sont vos remontées du terrain? Est-ce que en ce moment on vous appelle plus que d'habitude ou avec des questions très particulières?
Oui, on m'appelle principalement sur l'exercice du droit de retrait, que ce soit du côté des salariés ou du côté des employeurs, et que ce soit également des salariés de droit privé ou des fonctionnaires. C'est vraiment une question qui revient systématiquement. Je pense qu'on va voir un contentieux qui va fleurir dans les mois prochains parce qu'il y a l'exercice du droit de retrait et aujourd'hui il est massif dans pas mal de secteurs. Et je dirais que les questions se posent à la fois donc du côté salarié et du côté employeur parce que je tiens à signaler que les employeurs sont quand même très mal à l'aise avec cette question parce que je pense que la plupart quand même veulent protéger la santé de leurs salariés mais ils n'ont pas des réponses satisfaisantes, c'est-à-dire qu'ils savent pas exactement quelles sont les mesures qui doivent réellement mettre en place pour protéger la santé de leurs salariés. Je pense notamment au port du masque. On nous dit, enfin, le ministère du Travail nous dit que c'est pas forcément indispensable. Et puis les médecins nous disent le contraire. Donc, il y a des vraies questions qui se posent du côté employeur également pour savoir ce qu'il doit faire. Est-ce que si j'ai pas de masque, je dois demander à mes salariés de venir ou pas? C'est des vraies interrogations.
Alors là, justement, j'ai David qui nous écrit sur l'appli France Inter. David qui nous dit, c'est une question pour le service public. Je suis cadre traction à la SNCF. Mes conducteurs vont travailler sans réelle protection car nous n'en disposons simplement pas, dit David. Que faire avec les agents? Les envoyer quand même travailler ou non? Quelle serait votre réponse?
Moi, j'aurais tendance. Pour cette question-là, je dirais que si vous n'avez aucun moyen de protection, si vous ne pouvez pas donner de moyen de protection à vos salariés, le plus sage, c'est de ne pas les faire travailler. Parce qu'il y a un risque, il ne faut pas oublier que l'employeur est quand même tenu par une obligation de sécurité, il doit protéger la santé de ses salariés. Et s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Donc, il n'y a pas à tergiverser avec la santé des gens. Si vous n'êtes pas en mesure de les protéger, ne les faites pas travailler. C'est aussi simple que ça.
Nous avons une question de Fabrice. Fabrice, je pense que vous êtes en ligne. Vous nous appelez de Beaujolais. Et je ne sais pas où est Beaujolais, alors vous allez me le dire, s'il vous plaît.
Non, non, du Beaujolais.
Du Beaujolais.
De la région.
Non, ça, je sais très bien où c'est.
Voilà.
Ça, Fabrice, vous avez une question.
Oui.
Allez-y, s'il vous plaît.
Voilà, donc depuis le début de la crise sanitaire, en fait, je continue à travailler tout à fait normalement, sans précaution particulière. On a... par courrier, signalé déjà par oral plusieurs fois à notre employeur qu'on trouvait ça un peu bizarre. On a après signalé ça par écrit.
Et vous faites quoi, donc, Fabrice? Quel est votre métier? Vous ne nous avez pas dit.
Donc, je travaille dans l'aviation et je travaille sur des véhicules qui servent à faire l'avitaillement des avions sur les tarmacs.
Quelle est votre situation de travail? Vous travaillez, vous fabriquez ces camions?
Oui, je fabrique des machines en fait, si vous voulez, c'est sur un camion, mais c'est une machine. Et donc on travaille à 2 mains, 4 mains, 6 mains, en collaboration entre collègues en fait. Et voilà, donc en proximité importante et surtout sur les mêmes supports en permanence, quoi.
Vous touchez les mêmes surfaces. Et donc, votre question, c'est j'ai alerté mon employeur et il ne se passe rien, c'est ça votre question?
Alors, depuis qu'on a eu quand même des retours, je pense assez sincère, c'est une boîte familiale plutôt... très honnête avec ses salariés et tout. Et le retour qu'on a, en fait, c'est que eux, ils ont une pression énorme pour ne pas s'arrêter, en fait. Et que on leur a dit, vous aurez pas d'aide si vous arrêtez, il faut absolument continuer, quoi.
Écoutez, je propose qu'on, si vous voulez bien, qu'on pose la question, qu'on ait le regard du président délégué du MEDEF, Patrick Martin. Donc, une entreprise familiale qui aurait la pression pour continuer son activité, est-ce que c'est quelque chose qui résonne?
Oui, mais si vous voulez, l'économie est très interdépendante. Hein. Moi, je reviens à la question et témoignage, d'ailleurs, de votre auditeur Gérard dans la Vienne, parlant de son garagiste. Ça renvoie bien à l'idée que déterminer des secteurs qui pourraient continuer à exercer d'autre part, en réalité, c'est mettre en péril, y compris le secteur de la santé et le secteur de l'alimentation. Alors, il y a des choses qui avancent très bien, et je dois le dire, en bonne intelligence avec les centrales syndicales. Typiquement, les accords qui ont été passés chez Airbus, chez PSA, il y a des accords régionaux qui ont été passés par exemple en Haute-France ou dans le Grand Est, et on voit bien que quand on se met autour de la table à distance et qu'on réfléchit aux mesures de protection qui peuvent être mises en œuvre ou qui doivent être mises en œuvre pour les salariés, on trouve des solutions. Ça suppose de réorganiser le travail dans beaucoup d'entreprises, mais on avance et on avance en confiance. Donc les choses ne sont pas aussi binaires ou aussi tranchées qu'on peut le penser et que certains disent. Mais l'économie ne peut pas se mettre globalement à l'arrêt. L'Italie a essayé de déterminer des secteurs stratégiques. De jour en jour, le gouvernement italien est obligé d'élargir le périmètre de ses activités parce qu'il se rend bien compte que les entreprises dépendent les unes des autres. Vous pouvez pas transporter de marchandises s'il n'y a plus de transporteurs. Vous pouvez pas emballer de médicaments s'il n'y a plus de fabricants d'emballage, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit.
Christophe Noël, vous qui êtes avocat spécialiste en droit du travail, je vois que le ministère du Travail a mis en place des fiches de bonnes pratiques. Je crois que les premières, ça concerne notamment le travail en caisse, en boulangerie et il me semble également les chauffeurs-livreurs. Il y aura d'autres de ces fiches. Est-ce que ça va faciliter le travail et le discernement de tout le monde?
Alors, il faut bien comprendre que les recommandations qui sont celles du ministère du Travail sont des recommandations qui n'engageront pas le juge. C'est-à-dire que c'est pas le ministère du Travail qui va décider quelles sont les bonnes mesures et quelles sont les mauvaises mesures. Il faut bien comprendre que c'est pas lui qui aura le dernier mot. Le dernier mot, à la fin, c'est le juge judiciaire, c'est le conseil de prud'homme, c'est l'échange social des cours d'appel qui sont saisis de ces dossiers-là. Et donc ça, c'est fondamental de le rappeler. Et je pense que, heureusement ou malheureusement, l'avis du ministère du Travail, il est quand même relativement biaisé. C'est pas leur faire un mauvais procès que de dire ça, mais il y a quand même une arrière-pensée politique derrière tout ça. Donc je suis pas certain que les recommandations qu'ils nous donnent aujourd'hui seront les bonnes dans 6 mois. C'est-à-dire que peut-être que dans 6 mois, on se dira « ils se sont trompés ». Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fera le bilan des courses dans plusieurs mois. La science aura évolué, l'avis des médecins aura évolué sur cette question-là, et on saura dans 6 mois quelles étaient les bonnes pratiques qu'il fallait mettre en place à l'époque. C'est ça qu'il faut retenir.
Patrick Martin, vous partagez quel est votre regard, vous, sur ces fiches pratiques qui sont mises sur la prévention, les gestes barrières dans chaque métier? Est-ce que ça aide les chefs d'entreprise ou est-ce que ça ne suffit pas? Et surtout, en effet, on n'est pas sûr que ça tiendra dans la durée.
Non, je n'aurais pas le toupet de rappeler à Maître Noël que les chefs d'entreprise ont l'obligation de moyens. Donc ça renvoie à tout ce que j'ai dit précédemment, les chefs d'entreprise sont soucieux de la santé de leurs salariés et en bonne intelligence avec leurs syndicats mettent en place des dispositifs qui assurent la sécurité de ces salariés. Cet épouvantable virus, vous pouvez l'attraper aussi bien dans la vie privée. Ce qu'a dit un de vos auditeurs sur ces familles qui se déplacent, ça doit être leur promenade, et on peut le comprendre, elles sont confinées dans les hypermarchés, c'est absolument scandaleux. Je crois que c'est de la responsabilité de chacun individuellement d'être discipliné, d'être attentif aux autres et d'être attentif à soi-même. Donc, si vous voulez, il faut être réaliste, il faut être responsable, il faut être sérieux, mais il faut pas non plus tout mélanger et agiter des peurs. Il y a déjà suffisamment de peurs comme ça.
Nous avons Sabine au bout du fil. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Et je vais d'abord vous demander comment vous allez, parce que si je vois mon petit message sur mon écran, vous avez été ou vous êtes en arrêt maladie suite à une suspicion de Covid-19.
Tout à fait, ça va beaucoup mieux depuis hier. Donc c'était assez long. Je reprends tranquillement une énergie. Ça va, je suis contente.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alors Sabine, quel est votre métier habituel et quelle est votre question ?
Alors, je suis préparatrice en pharmacie. Ma question est la suivante. Donc, j'ai eu un arrêt maladie Covid-19 et j'aimerais savoir comment me sera réglé cet arrêt maladie. Donc, ça, j'entends beaucoup de choses. Les jours de carence qui sont squeezés. Après, si tu n'as pas de pathologie à risque, tu risques d'avoir ces 3 jours de carence. Bon, je suis un petit peu paumée et je voudrais voir à quelle sauce je vais te manger.
Bah c'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu normal d'être pas au clair avec le droit du travail en ce moment. Il y a l'organisation qui est en train de changer et puis les règles. Il y a beaucoup de dérogations, on va en parler. Christophe Noël, est-ce qu'on peut rassurer Sabine ?
On peut rassurer Sabine. Alors, on vit au jour le jour avec les ordonnances qui sont tombées le 25 mars. Mais enfin, ce qu'on voit, c'est que la prise en charge pour Sabine, pour sa maladie, elle se fera 100 jours de carence. Normalement, il y a 3 jours de carence qui s'appliquent en principe. Là, ça s'appliquera pas. Et ça fait combien de temps que Sabine travaille dans sa pharmacie ?
Alors, 20 ans.
Ah oui, bon, alors il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez la complémentaire qui vous sera versée par la rémunération complémentaire qui vous sera versée par votre employeur sans difficulté. Donc, rassurez-vous, vous avez. Alors, une question qui peut se poser, là, c'est l'avocat, c'est le réflexe d'avocat, mais est-ce que vous avez. Alors, c'est difficile de le savoir, bien sûr, puisqu'on peut attraper ce virus un peu partout, mais si vous avez contracté le virus sur votre lieu de travail, la question va se poser de savoir si c'est une maladie professionnelle ou un accident du travail.
On a beaucoup.
Mais faudra-t-il encore le.
Il faut, allez-y, il faut finir cette consultation, Maître Noël. Allez-y.
Non, mais c'est une question que beaucoup de salariés se posent, qui ont contracté le virus alors qu'ils travaillaient, qu'ils ne pouvaient pas, travailler, c'est le cas de Sabine, j'imagine. Et si effectivement ils ont contracté, ou en tout cas s'ils peuvent rapporter la preuve qu'ils ont contracté le virus sur leur lieu de travail, ce qui à mon avis sera très compliqué, ils peuvent quand même revendiquer le statut de salarié qui est victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Une question qui nous arrive sur le mail du téléphone sonne. Bonjour, mon employeur, et je travaille dans le privé, nous oblige à solder tous nos congés, voire à prendre les congés 2020-2021 en anticipé. Est-ce que c'est légal? Que peut-on faire? Et là, je voudrais me tourner d'abord vers Patrick Martin, parce que pour tout dire, c'est quand même quelque chose qu'on entend monter de plus en plus dans les entreprises. Sans parler de contraintes, il y a une vraie réflexion sur comment faire passer, comment utiliser les congés pour gérer au mieux ce choc du Covid. Est-ce que vous ressentez la même chose, Patrick Martin, et quel est le regard du MEDEF ?
Non, alors, avec Geoffroy Roux de Bézieux, nous avons écrit à tous nos adhérents en leur disant de prioriser la santé des salariés et d'être solidaires entre eux. La règle s'agissant de l'anticipation de congés payés est extrêmement claire. Si elle n'est pas respectée par exception dans certaines entreprises, c'est évidemment condamnable. Elle est très claire en ce sens que ça doit passer par un accord d'entreprise et que ça ne peut pas porter sur plus de 6 jours. C'est une mesure dont nous avons discuté avec le gouvernement. Et à partir de là, évidemment, nous sommes d'accord. On ne peut pas forcer des salariés à prendre des congés s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, donc avec les représentants du personnel. Et on ne peut pas les forcer à prendre de congés au-delà des 6 jours qui ont été prévus par le décret. Donc les choses sont très claires et si d'aventure elles ne sont pas respectées, bien évidemment, il faut les dénoncer. Et les entreprises, j'en suis sûr, les rares entreprises qui se livreraient à ce type de comportement feront marche arrière et elles auront bien intérêt.
Christophe Noël, est-ce que vous avez des questions sur les congés ?
Non, pas encore, tout simplement parce que c'est tout récent, hein, ça date du 25 mars, l'ordonnance. Donc effectivement, je rejoins ce que disait votre invité. D'ailleurs, je me pose une question pratico-pratique, c'est qu'effectivement, il vient de vous le dire, il faudra des accords d'entreprise. Je me demande d'ailleurs comment on va pouvoir les signer, ces fameux accords d'entreprise. Mais bon, je dis ça avec le sourire, mais...
Mais peut-être que... Non, mais peut-être... Ouais, Patrick Martin, vous avez une réponse. C'est vrai que c'est difficile de signer des accords d'entreprise en période de confinement, ou c'est possible ?
Non, mais j'ai tout à fait une réponse. Hein. Si vous voulez, dans une des filiales de ma société, nous n'avions pas, contrairement à ce qu'on avait fait partout ailleurs, nous n'avions pas encore d'accord de télétravail, alors qu'on a mis massivement en application le télétravail. On a fait ça d'abord à travers des calls téléphoniques et ensuite des échanges de mails scannés pour attester de l'accord de nos organisations syndicales. On est dans une circonstance tout à fait exceptionnelle, de la même manière que les entreprises peuvent tenir leur conseil d'administration d'arrêter des comptes ou leurs assemblées générales à distance, qui est ce que la loi interdisait jusque-là. S'agissant de la consultation des représentants du personnel, on peut le faire de la même manière.
Je rebondis sur cette idée de dérogation qu'on a vue depuis le 25 mars. Il va y avoir des changements, en effet, notamment sur le temps de travail. Hein. Des entreprises, des secteurs vont être autorisés à faire travailler leurs salariés jusqu'à 60 heures par semaine au lieu de 48, ou bien à faire travailler plus la nuit, plus le dimanche. Est-ce qu'on sait, Patrick Martin, qui ça va concerner? Et Christophe Noël, question pendante, est-ce qu'il y a des garde-fous? Alors, Patrick Martin, MEDEF.
Alors, deux choses. D'abord, ça ne se produira que par exception. Typiquement, si vous manquez de main-d'œuvre pour des raisons sanitaires, dans le transport ou dans l'alimentaire, alors que la demande tout à fait normalement est forte, il n'est pas absurde d'imaginer ce type de dispositif pour satisfaire la demande des clients, singulièrement du secteur de la santé. Ensuite, ça a suscité cette annonce par le ministère du Travail, ça a suscité beaucoup de réactions de la part des organisations syndicales. Il s'est tenu vendredi une réunion autour de Madame Pénicaud qui a apporté toutes sortes d'apaisements aux syndicats qui s'étaient exprimés et nous les avons rejoints pour dire que ces mesures ne devraient être prises qu'en bonne intelligence avec les intéressés. Donc là aussi.
Mais ça peut concerner qui à part la santé ?
Bah ça peut, c'est ce que je viens de dire, ça peut concerner du personnel de production dans l'agroalimentaire, ça peut concerner des chauffeurs-livreurs, ça peut concerner du personnel sur des plateformes logistiques. On revient toujours à la même idée, tous les secteurs étant interdépendants, si pour une raison ou pour une autre, et en particulier faute de personnel pour des raisons sanitaires, une usine qui produit des médicaments doit s'arrêter parce qu'elle ne peut pas demander à ses salariés, j'insiste, en bonne intelligence avec eux de travailler plus pendant une période courte. Cette disposition dérogatoire et exceptionnelle n'est prévue que pendant la durée d'application des ordonnances. Mmh. Donc là aussi,
c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Mais on va sur ce point de droit. Est-ce qu'on demande, si vous voulez bien l'avis de Christophe Noël du point de vue du droit? C'est vrai qu'il y a eu des inquiétudes, il y a eu des réactions, comme dit Patrick Martin. Est-ce qu'il y a des garde-fous? On n'a pas vu des dérogations comme ça depuis la Première Guerre mondiale, hein, ça rappelle beaucoup.
Oui, exactement. Ouais. Bah, alors c'est un peu ce qui est choquant dans cette disposition, c'est qu'il n'y a absolument pas de garde-fous, c'est-à-dire que c'est laissé à la discrétion de l'employeur. Ce qui est assez surprenant tout de même, parce qu'il y a déjà une disposition dans le Code du travail qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, de faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures. Mais ça doit se faire sur autorisation administrative et dans des circonstances exceptionnelles. Là, pour le coup, l'autorisation administrative est saute et on laisse la mesure à la seule discrétion de l'employeur. Donc c'est assez surprenant, hein. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Puis deux remarques sur cette mesure.
Allez-y, puis on a Philippe qui est en train de patienter en ligne et qu'on va prendre dans quelques secondes.
Je vais très vite. Il y a quelque chose d'assez étonnant aussi. C'est d'abord on va créer un système qui est complètement dérogatoire et qui va s'appliquer uniquement aux salariés qui appartiennent aux industries qu'on va appeler les industries vitales. Ça va être sans doute l'énergie, les télécoms, la logistique, le transport, l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors que le Code du travail, il a quand même vocation à s'appliquer à tous les salariés. Donc ce système dérogatoire, il est un peu surprenant. Et puis surtout, il peut paraître relativement injuste. Parce que entre les salariés qui travaillent depuis chez eux, qui sont principalement des cadres et qui font du télétravail, qui peuvent travailler à peu près comme ils veulent, eh ben il va y avoir une deuxième catégorie de salariés qui seront quand même bien moins lotis et qu'on pourra faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine et qui pourront aussi ne travailler de dimanche. Donc il y a quand même deux catégories là qu'on va opposer. Il y a des risques de tension entre les deux tout de même. Donc cette mesure est assez surprenante.
Patrick Martin voulait dire un mot ou on passe la parole à Philippe?
Non,
inquiétude du côté de l'avocat.
Oui, à nouveau, ce n'est pas moi le juriste dans ce débat. Mais dire qu'il n'y aura plus d'autorisation administrative, c'est un contresens. Il y a un décret qui a été pris. Donc le décret l'emporte sur l'autorisation administrative. C'est en soi une autorisation administrative. Bon, par ailleurs, je me répète, d'abord, nécessité fait loi. Enfin, moi, si demain on m'explique que je ne vais pas être guéri alors que je suis atteint du Covid parce qu'il n'y a plus de chauffeur, je me dirais, on est bien bête de ne pas avoir proposer une extension de la durée de travail. Bon. Et ensuite, ça sera en bonne intelligence avec les intéressés, évidemment.
On va passer la parole à Philippe qui a patienté. Et je vous remercie, Philippe, d'avoir patienté. Vous voyez un petit peu plus loin. Vous êtes en train de penser à la sortie du confinement et aux mois qui viennent, c'est ça?
Oui, absolument. Moi, je suis responsable d'une PME, donc qui est relativement fragile au quotidien. Même dans l'informatique. Et là, actuellement, donc tout le monde est confiné chez soi. pour travailler. Donc le nombre d'heures, qu'il soit de 8 heures ou 10 heures par jour, suivant le travail. Mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que dès l'instant où le confinement sera levé, dès l'instant où la pandémie disparaîtra tout au partie, c'est la reprise de l'activité. Et je pense que ça ne va pas se faire en un mois, deux mois. Il faudra peut-être 6 mois, voire un an. Et comment malgré ce que le gouvernement dit pour accompagner les PME, ce que dit sans critiquer non plus, mais le MEDEF, mais la réalité au quotidien, j'ai des soucis sur les personnes qui sont employées et qui, de ce fait, les sociétés, à un moment donné, seront peut-être, j'espère que non, mais seront dans l'obligation de licencier.
Donc, voilà. Vous avez combien d'employés, Philippe?
J'ai trois employés. Voilà.
Mais vous dites que si la trésorerie passe pas, vous serez obligé de licencier.
Ah oui, et Dieu sait si ce sont des personnes qui, sur un plan technique informatique, sont de très haut niveau. Et n'empêche que c'est la vie. Hein, moi-même, j'ai continué à avoir une occupation. Mmh. Hein, j'ai passé 70 ans.
Donc... On va poser la question à Patrick Martin, parce qu'évidemment, en tant que président délégué du MEDEF, il a une vision de tout le territoire. Et je la poserai aussi à Christophe Noël. Est-ce que vous voyez déjà des licenciements aujourd'hui? Et comment est-ce que vous envisagez, en effet, c'est cette grande peur, c'était la une du monde, le chômage de masse qui pourrait exploser?
Bien sûr qu'on se pose la question. Je me permets de l'appeler par son prénom, rappeler à Philippe que je suis moi-même chef d'entreprise et qu'en moyenne, les adhérents du MEDEF ont 47 salariés. Donc on comprend très bien son interrogation, qui au-delà d'une interrogation est une angoisse. Bon, les deux dispositifs mis en place qui permettent de conserver des salariés en leur assurant jusqu'à 84% de leur salaire net dans la limite de 4,5 le SMIC, c'est le système le plus généreux, si on peut le dire, dans cette circonstance d'Europe. En Allemagne, c'est 60 à 67%. Ça évite à l'instant T de licencier. Ensuite, les mesures d'accompagnement financier qui sont massives. Hein. Il y a 300 milliards d'euros qui vont se déverser dans les jours qui viennent sur les entreprises. Ça nous semble essentiellement satisfaisant. Sous réserve que l'épidémie ne se prolonge pas au-delà de fin avril, mettons. Auquel cas, il faudra rajouter des montants. Donc, tout ça est assez bien calibré. On y a beaucoup travaillé avec les autres organisations patronales, également les organisations syndicales. Ce qu'il faut, c'est que Philippe se rende très vite chez son banquier pour bénéficier de ce dispositif qui est sans condition et dans la limite de 25% de son chiffre d'affaires annuel. Donc, en trésorerie, ça va quand même couvrir l'immense majorité des besoins qui sont bien réels, par ailleurs.
Pour vous, les banques, en ce moment, elles jouent le jeu, d'un mot ?
Ah oui, elle joue complètement jeu. Mais les mesures ont été annoncées il y a 3 jours, hein, donc il faut que ça aille très très vite dans les réseaux bancaires. C'est un dispositif d'urgence totalement atypique, mais je crois qu'il y a 45 000 collaborateurs dans les banques qui ont été au pied levé formés pour accueillir les entreprises et traiter leurs dossiers. Et l'État a dit que c'était nos limites, hein, les financements.
Alors, une petite question, Patrick Martin. L'État a aussi recommandé aux entreprises d'accorder cette fameuse prime de 1 000 euros aux gens qui vont au combat en deuxième ligne, hein, c'est-à-dire à tous les salariés qui continuent d'aller travailler, même s'ils ont sans doute peur. Qu'a dit le MEDEF là-dessus ?
En deuxième ou en première ligne. Hein. Écoutez, nous, on y est favorable, évidemment, pour les salariés qui sont physiquement présents, qui sont en présentiel. Hein. Ceux qui sont en télétravail sont évidemment beaucoup moins exposés. Après, il y a une limite à ce dispositif qu'on trouve dans le principe très bien, c'est que beaucoup d'entreprises, et le témoignage de Philippe en atteste, beaucoup d'entreprises vont être dans une situation critique. Et donc, leur marge de manœuvre, en quelque sorte, pour distribuer des primes seront des réduite, voire anéantie. Bon, soyez assurés que tous les chefs d'entreprise actuellement veulent préserver leurs salariés, conserver leurs salariés et pensent au lendemain, c'est-à-dire se disent, si rien n'est fait, si l'économie se met à l'arrêt et si les dispositifs mis en place par le gouvernement ne sont pas déployés, c'est pas du chômage partiel, c'est du chômage pur et dur qu'on aura à hauteur de plusieurs millions de salariés. Alors, donc on est tous embarqués dans la même galère.
Ma dernière question, si vous voulez bien, Christophe Noël, elle est pour vous. Est-ce que vous avez déjà, ou est-ce qu'il est trop tôt, des coups de téléphone pour vous demander conseil sur des licenciements? Je pense à des gens, j'ai entendu, en période d'essai, là, à qui on dit au revoir. Ça existe, oui, alors, ou c'est très, très particulier?
Non, ça existe. Il y a malheureusement des employeurs qui, parce qu'il y a l'épidémie, prennent prétexte de cela pour rompre les périodes d'essai. Alors, c'est totalement illégal. La rupture de période d'essai, ça doit intervenir que pour des motifs professionnels. C'est-à-dire qu'on juge la compétence du salarié qu'on a pris. S'il ne donne pas satisfaction, on rompt la période d'essai. Mais on ne peut pas rompre cette période d'essai parce qu'il y a une épidémie, c'est absolument illégal. Là, ce qui est difficile, par contre, c'est de rapporter la preuve qu'effectivement, votre employeur a rompu la période d'essai à cause de l'épidémie.
Bon.
Voilà.
À ce moment-là, allez-y, il nous reste 10 secondes.
10 secondes, juste simplement pour vous dire que faut pas oublier que les entreprises conservent le droit de licencier, même pendant la période de Covid-19, et qu'il serait illusoire de penser qu'il n'y aura pas des licenciements pour motifs économiques qui vont intervenir en masse, même quand l'épidémie sera terminée. Ça, il faut l'envisager dès maintenant.
Christophe Noël, Patrick Martin, merci, un très grand merci à vous deux de nous avoir consacré du temps ce soir, d'avoir été avec nous. Merci pour vos réponses. Le téléphone sonne va continuer à partir de 19h20. Et là, il sera question d'addiction. Nous aurons un psychiatre addictologue et une diététicienne nutritionniste pour vous répondre. Mais d'abord, comme c'est samedi soir, écoutez, ce qu'on a eu envie de s'offrir ce soir, c'est une parenthèse de joie, d'énergie. Et ça tombe bien. Écoutez qui nous appelle. C'est Isia Higelin. Bonsoir, Isia Higelin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, je me suis demandé comment Isia Higelin, qui est toujours à 200 000 volts, traverse le confinement et si vous avez trouvé une routine.
Non, alors, pas de routine. Aucune routine. Et les gens qui disent qu'ils ont trouvé leur petit rythme, tout ça, c'est vraiment... Je me demande comment ils font, parce que moi, chaque jour, c'est encore plus le chaos et l'anarchie que la veille. J'ai l'impression qu'il y a...
Il faut écouter notre second plateau. Alors, attention à ne pas déraper, hein.
Non, bien sûr, mais de toute façon, moi j'ai mon petit, donc ça me prend quand même beaucoup de temps d'avoir les enfants à la maison. Et voilà.
Est-ce que vous comptez, vous êtes une artiste évidemment, une chanteuse, qu'est-ce qui vous accompagne? Est-ce que, moi j'aime bien demander aux gens, est-ce qu'ils ont un livre de chevet en ce moment qui leur fait vraiment du bien ou qui les emmène ailleurs, ou peut-être un album, ou peut-être les 17 minutes de Bob Dylan?
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas écouté ça d'ailleurs.
Bah, il faut 17 minutes.
Je pense pouvoir les trouver en ce moment. Et non, je vous avoue qu'en fait, j'ai regardé là, j'avais pas internet la première semaine de confinement, ce qui n'était pas pratique, mais du coup j'ai un peu fouillé dans les vieux DVD et j'ai retrouvé un coffret de Wes Anderson. Et du coup, je me suis regardé un peu tous ces films. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas revisionnés. Et c'est vraiment beau, ça fait vraiment voyager, ça sort un peu de ce qu'on vit. Ouais, je conseillerais aux gens de se remater des petits Wes Anderson, ça fait du bien.
Alors, il faut nous donner des titres.
Qu'est-ce que... Alors, La famille de Tenenbaum, Darjeeling Limited, La vie aquatique, voilà. J'ai regardé ces trois-là.
Et vous n'aviez pas internet. Et qu'est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui ont craqué au bout d'une semaine, hein, qui sont allés s'acheter une box, hein, pour le dire.
Oui.
Est-ce que c'est un peu... Ça a été votre cas? Parce que en ce moment, on est tous quand même assez accros aux écrans et aux infos.
Moi, j'essaie de vraiment de regarder les informations le moins possible. Je me tiens évidemment au courant pour savoir comment ça évolue, mais j'essaie vraiment, vraiment de me protéger de ça, quoi. Parce que ça rend fou, quoi. Non, Internet, en fait, j'avais juste eu la malchance de changer ma box 3 jours avant l'annonce du confinement. Et du coup, j'ai attendu comme une débile qu'on me la livre.
Bon, ouais, simplement. Ok, on sait tout. Écoutez, à 19h, on va avoir les infos, mais vous pouvez rester sur France Inter. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Isia Higelin. Prenez soin de vous. Bonne soirée.